après ces 20 000 ans, voici de l'actualité grâce à Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les rebelles défaits à Alep en Syrie, le régime de Bachar al-Assad est en train de remettre la main sur la deuxième ville du pays et peut-être de gagner la guerre. Nous irons sur place dans un instant. Le choix très clair de Donald Trump, le futur président américain, nomme un climato-sceptique à la tête de l'Agence américaine de protection de l'environnement. L'accord de Paris est sur la sellette. Un choix très clair au moment où la France suffoque. Un pic de pollution sans précédent perdure à Paris et sur de nombreuses villes. Les autorités en appellent au civisme des automobilistes. Un candidat de plus la primaire de gauche. Vincent Payon serait sur le point d'entrer dans la course. Nous suivrons ce matin Arnaud Montebourg qui poursuit sa route, lui, depuis plusieurs mois. Et la psychanalyse interdite pour les autistes, c'est une proposition de loi débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Proposition très polémique, nous le verrons. La reprise d'Alep signifie-t-elle la fin de la guerre en Syrie? En tout cas, ce sera un tournant, une étape énorme vers la fin du conflit, déclare ce matin le président Bachar al-Assad dans le quotidien syrien Al-Watan. Il ne crie pas victoire donc, mais ses troupes se sont finalement imposées dans la vieille ville d'Alep et dans la plupart des quartiers rebelles. Des opposants qui réclament une trêve de 5 jours, demande relayée par les États-Unis, la France ou encore le Royaume-Uni, mais ignorée par le président syrien. Effectivement, notre envoyé spécial à Alep, Valérie Krova, constate que les armes ne se sont pas tues.
La citadelle d'Alep se dresse devant nous, majestueuse. Elle domine la vieille ville et son souk, ravagée par la guerre. Une position idéale pour l'armée syrienne. Une dizaine de militaires sort en courant des ruelles noircies par les combats et autrefois arpentées par les touristes. Il y aurait des mouvements suspects. En quelques secondes, l'ambiance change radicalement. Sa kalachnikov sur l'épaule, ce soldat syrien apparaît très sûr de lui.
La vieille ville est totalement reprise ou pas ?
La vieille ville maintenant est encerclée. Personne ne peut bouger parce qu'on l'a sous le feu.
Et les rebelles, donc ils n'ont plus aucune possibilité de sortir ?
Soit ils seront, soit ils se tuent.
Vous pensez qu'ils sont combien ?
Je ne peux pas le savoir.
I don't know.
C'est la fin.
Ils souffrent le dernier souffle.
Qu'ils aient été délogés par les armes ou qu'ils soient partis volontairement, les rebelles ne représentent plus qu'une menace limitée. Ils ont déjà perdu 80% de leur territoire et ne contrôlent plus que 10 km² d'Alep Est.
Le reportage à Alep, en Syrie, de Valérie Krova. En Irak, voisin, la bataille de Mossoul contre les djihadistes de Daesh dure depuis près de 2 mois maintenant et les forces de Bagdad, appuyées par la coalition internationale, ont effectué une percée marquante hier. Malgré la résistance des combattants de l'État islamique, les soldats ont pu approcher un peu plus du fleuve Tigre, avancée la plus importante depuis le début de l'offensive lancée le 17 octobre. À l'étranger, encore, Donald Trump continue de former son gouvernement avant son investissement le 20 janvier, et parfois des choix étonnants, comme cette ancienne dirigeante de la Ligue mondiale de catch, Linda McMahon, femme d'un milliardaire qui avait affronté Donald Trump par catcheur interposé il y a une dizaine d'années. L'époux avait fini rasé au sens propre par Trump sur le ring. Dans le futur cabinet présidentiel, Linda McMahon sera chargée des 28 millions de PME américaines. Autre nomination polémique, celle d'un homme clé de la politique environnementale américaine, un défenseur du gaz et du pétrole. Un choix sans ambiguïté. Frédéric Carbone.
Le nouveau patron de l'Agence américaine de protection de l'environnement ne veut protéger ni l'agence ni l'environnement. Scott Pruitt est à la fois un climato-sceptique et un opposant acharné à toute régulation. Il n'a pas le profil du scientifique marginal contestant chiffre à l'appui la réalité du réchauffement climatique. C'est avant tout un politique au service du lobby du pétrole et du gaz. Dans son état de l'Oklahoma, sa campagne pour le poste de procureur général a été financée par le président de la principale compagnie pétrolière. Ce républicain affirme donc qu'il n'a aucune certitude sur l'impact de l'activité humaine sur le climat et surtout, il conteste toutes les normes mises en place par l'administration Obama pour réduire les émissions de CO2. Il a pris la tête de la bataille juridique pour refuser l'application de ces directives. Sa nomination est une bonne nouvelle pour les mineurs de Virginie-Occidentale et du Kentucky, dont Donald Trump a promis de protéger les emplois. C'est un très mauvais signal, en revanche, pour l'accord de Paris. Le nouveau président américain n'aura même pas besoin de le dénoncer. Son monsieur environnement se chargera d'empêcher sa mise en place.
Un choix sans ambiguïté aux États-Unis, donc au moment où la France traverse un épisode sans précédent de pollution en plein hiver. Pour le troisième jour consécutif, la circulation alternée est reconduite à Paris en petite couronne. 8 décembre, jour pair, place donc aujourd'hui aux immatriculations pair. La circulation alternée sera également instaurée demain à Lyon et à Villeurbanne, car les particules fines font suffoquer aujourd'hui une bonne partie de la France. Alerte à la pollution à Grenoble, Rouen, Dunkerque, Lille, Amiens, dans les zones urbaines de Savoie, des Hautes-Pyrénées ou encore autour de la ville de Rodez. La circulation, mesure dont l'efficacité est contestée. Alors les autorités en appellent aussi au civisme des franciliens. Écoutez Marc Meunier, le secrétaire général de la zone de défense de Paris.
L'arme la plus efficace, c'est le civisme. La circulation alternée est une mesure efficace, puisque si elle est respectée, elle doit conduire à un allègement de la circulation d'au moins 30 ou 40%, ce qui réduit d'autant la part du trafic dans l'émission des substances polluantes, que tout le monde se sente concerné et évite au maximum de prendre sa voiture, même s'il a la plaque qui correspond au bon numéro dans les jours qui viennent. Donc on ne prend pas sa voiture quand on peut s'en dispenser. Alors ça demande un effort, faut s'organiser. C'est pour ça qu'on annonce la reconduction de la circulation alternée très probablement la journée de vendredi, donc ce qui laisse à chacun le temps de s'organiser. Et donc tous les véhicules qui comportent 3 personnes ou plus peuvent circuler dans les jours à venir.
Le secrétaire général de la zone de défense de Paris, Marc Meunier. Alors les dérogations pour pouvoir circuler aujourd'hui avec une plaque impaire sont nombreuses, pour les professionnels notamment, mais tous n'en bénéficient pas. Alors quel impact économique pour les livreurs, par exemple? Des éléments de réponse avec Maxime Debs.
Il y a aujourd'hui 100 000 véhicules de marchandises qui transitent par l'Île-de-France. Si l'on enlève ceux qui disposent de dérogations, c'est 80 millions d'euros que perdraient par jour les sociétés de livraison avec cette circulation alternée. Calcul effectué par l'Union des entreprises de transport et logistique de France, sa déléguée générale Florence Berthelot a connu des jours meilleurs.
On est quand même au mois de décembre, en période de préparation des fêtes, et tout retard qu'on prend et toute perte de chiffre d'affaires est gravement nuisible pour le secteur.
Car le problème, déplore cette fédération, c'est qu'hormis les camions frigorifiques, d'autres sont cantonnés au garage. Quid de ceux chargés en vêtements, par exemple, quand on sait que le prêt-à-porter s'invite souvent sous le sapin pour les fêtes. À la CGPME qui représente les petites entreprises, Jean-Eudes Duménil espère que cette situation ne durera pas trop longtemps.
C'est pas la catastrophe nucléaire, hein, soyons clairs. On n'a pas des entreprises qui vont s'effondrer du jour au lendemain. Mais si ça devait se prolonger pendant une semaine, par exemple, on aurait effectivement certains professionnels qui pourraient réellement commencer à avoir un impact sur leur chiffre d'affaires et donc souffrir sur le plan économique, et ça pourrait devenir embêtant.
La circulation alternée qui fait néanmoins les affaires de certains, comme les chauffeurs de VTC, ces derniers ont vu leurs commandes augmenter ces jours-ci de 42% par rapport à d'habitude.
À la page économique et sociale encore, journée de mobilisation aujourd'hui à La Poste. Depuis plusieurs mois, les syndicats dénoncent une dégradation des conditions de travail, plusieurs cas de suicide qui seraient liés. En cause, les milliers de suppressions de postes depuis 2008, Anne Lorchouin.
Christelle est factrice dans un petit bureau de poste en zone rurale. Elle a vu la situation se dégrader au fur et à mesure depuis 3 ans environ.
Il y a un an et demi, une collègue a fait une tentative de suicide. Des gens en dépression, il y en a pas mal. Les agents tombent un petit peu les uns après les autres, quoi. On arrive à craquer devant son casier, à pleurer, et puis plus arriver, quoi. On supporte plus d'aller au boulot, et voilà, quoi. Faudrait pas que la situation se dégrade encore plus, ça c'est certain. Beaucoup de nos supérieurs ont la petite phrase sympathique « je vous ai bien entendu ». Nous entendent, qui nous écoutent, c'est autre chose.
Et pourtant, malgré 960 millions d'euros cumulés reçus via le CICE, un crédit d'impôt censé à l'origine sauvegarder l'emploi, La Poste a continué de tailler dans les effectifs en fermant des bureaux dans les zones dites non rentables, y compris en plein Paris, en réduisant le nombre de guichetiers également. Et tout cela, selon les syndicats, malgré des missions de service public assignées par l'État qui stipulent notamment que La Poste doit assurer l'accessibilité bancaire et une présence postale partout sur le territoire. David Dubélois de la CGT.
Vous allez dans un bureau de poste, vous demandez en fait de savoir où est votre colis ou peu importe. Le guichetier va pleurer avec vous parce qu'il est en incapacité de pouvoir vous donner la réponse à votre question. Par contre, il va vous donner un téléphone où il va vous inciter à aller appeler le 3639 ou le 3631 pour pouvoir avoir la réponse. Or, aujourd'hui, on a un professionnel devant nous qui est en capacité d'avoir tous les outils pour pouvoir répondre à la question qui lui est posée. Mais aujourd'hui, on interdit en fait au guichetier parce que ce n'est pas une situation rentable. Le temps perdu en SAV, ça ne rapporte pas d'argent à La Poste. fait.
Certes, le nombre de plis individuels a nettement diminué avec l'explosion d'Internet, mais les petits colis à distribuer ont beaucoup augmenté, eux, justement à cause de la hausse des ventes en ligne. Contactée, la direction de la Poste préfère ne pas s'exprimer, arguant que des négociations sont en cours.
Combien seront-ils? Les candidats à la primaire de gauche se multiplient. Dernière en date, Vincent Peillon, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, serait sur le point de se lancer. Manuel Valls, lui, lors de son premier meeting de candidats hier dans le Doubs, a prévenu « Cette primaire ne doit pas se transformer en congrès du PS, en une foire d'empoigne réveillant les querelles du passé ». Autre candidat, Arnaud Montebourg, il faisait campagne hier dans sa région Bourgogne, à Dijon. Ludovic Piétenu l'a suivi.
Dijon, c'est la ville où tractait à 19 ans pour François Mitterrand l'étudiant Arnaud Montebourg. 36 ans plus tard, c'est lui qui, dans l'esprit de l'union de la gauche de l'époque, prône l'union des gauches.
Le chemin stratégique que j'entends suivre est le chemin d'un rassemblement continu jusqu'au mois de mai 2017 pour reconstituer ensemble, réunifier le peuple de gauche qui a été désarticulé. Et ces différentes gauches doivent se conjuguer, se compléter, se concilier et doivent s'unir pour dégager les conditions de la victoire au mois de mai 2017.
Manuel Valls peut bien parler de son côté de conciliation et de réconciliation. Arnaud Montebourg reprend le mot de concilier. Le concours du plus grand rassembleur est lancé.
Je n'ai pas d'opposant. Pour ma part, je défends un projet de cohésion politique, incluant les Français plutôt que les excluant. C'est un projet de cohésion sociale qui organise la réinvention du modèle social pour assurer à tous une place dans la société.
Tout dans son discours tourne autour de l'union, du rassemblement ou de la cohésion. Ses seuls adversaires, Marine Le Pen et François Fillon, dont il qualifie le projet de thatchérien et d'inégalitaire.
Le reportage de Ludovic Piétenu. Et avec Vincent Peillon, on en serait donc à 9 candidats pour la primaire de gauche. C'est trop pour le monsieur primaire du PS, Christophe Borgel, qui prévient que 7, comme pour la droite, c'est déjà beaucoup, surtout en vue des débats télé. L'embouteillage des candidatures à gauche, ce sera le billet politique de Frédéric Seyss après ce journal. La politique côté justice, c'est l'heure de vérité pour Jérôme Cahuzac. Le tribunal correctionnel de Paris va dire aujourd'hui si l'ancien ministre du budget est condamné à de la prison. Il est poursuivi pour avoir fraudé le fisc en cachant des comptes à l'étranger. Le parquet national financier né de cette affaire avait requis à l'issue du procès 3 ans de détention ferme contre Jérôme Cahuzac. La politique, ce sont aussi des débats enflammés parfois à l'Assemblée nationale. Les députés vont examiner aujourd'hui une proposition de résolution sur l'autisme. Rien de moins que l'interdiction de la psychanalyse dans la prise en charge des autistes. Les collectifs de psy se mobilisent. Quant aux associations de familles d'enfants autistes, elles sont divisées, Aurélie Kiefer.
Il faut dire que cette proposition de résolution ne fait pas dans la dentelle. Elle veut rendre juridiquement contraignantes les recommandations de la Haute Autorité de Santé, du jamais vu, et interdire le recours à la psychanalyse assimilée à une approche maltraitante dans la prise en charge de l'autisme. Mireille Battu, présidente de l'association La Main à l'Oreille, est choquée.
Nous ne défendons pas plus la psychanalyse que le comportementalisme. Nous souhaitons avoir le choix. Et d'ailleurs, il faut être confronté à la réalité. La plupart du temps, on prend ce qu'on trouve. L'idéal, hein, serait que notre enfant puisse bénéficier de quelque chose qui lui convient. Or, la même chose ne convient pas à tous les enfants. Il y a une très grande diversité de l'autisme. Prétendre que tous pourront être traités de la même façon n'est pas pertinent.
Pourtant, d'autres associations soutiennent ce texte. L'an dernier, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour manque d'accompagnement de l'autisme. Il est temps que ça change, estime Florent Chapelle, vice-président de la Maison de l'autisme.
L'essentiel des ressources de l'État est mis sur des méthodes qui n'ont pas montré leur efficacité ces 40 dernières années et qui ont été abandonnées dans le monde entier, sauf en France. Un enfant n'a rien à faire à l'hôpital. Donc il faut qu'il soit dans les mains de psychologues. Et avec les budgets des hôpitaux, oui, il faut aider les enfants à aller à l'école ordinaire. Aujourd'hui, les parents pestent. Ils disent, mais on va à l'école, on paye nos éducateurs, ou on a des AVS qui ne sont pas formés. Par contre, si on va à l'hôpital, c'est remboursé à 100% par la CNAM. On a des approches inadaptées, remboursées, des approches adaptées, pas remboursées. On marche sur la tête. Dans le cas de mon fils, j'ai cassé ma tirelire et moi, mon enfant a 45 heures d'éducateur par semaine. À 5 ans, il s'automutilait, il disait pas un mot. Aujourd'hui, il parle, il va à l'école. Il a 11 ans aujourd'hui.
La fédération Sésame Autisme soutient elle aussi les approches comportementales et développementales, mais elle s'inquiète du ton belliqueux de ce texte. Et sur le fond, la présidente Christine Ménien le juge trop flou. Il faut du concret, dit-elle, pour construire l'avenir de nos enfants.
Et le temps de ce jeudi, ce sera gris en début de journée. Les éclaircies arriveront l'après-midi. Il fait encore bien froid dans le nord-est. Attention au brouillard givrant ce matin. Cet après-midi, on n'attend pas plus de 3 degrés à Strasbourg, 9 degrés à Reims, 10 à Paris et à Lille, 15 à Brest, 15 aussi à Bordeaux, 17 degrés à Marseille. Et ce matin, à la grotte de Lascaux, on frôle le zéro. Ça se réchauffe ensuite jusqu'à 15 degrés cet après-midi. Lascaux, en Dordogne, près de Montignac-Coulon, vous retrouve Guillaume Erner.